pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, en avant ou en arrière.
Du prophète Jérémie. On va commencer par cela. Prophète Jérémie, chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 23. Alors, je rappelle, Jérémie, chapitre 7, verset 23. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël et il dit ceci, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. Alors, ça c'est Dieu qui fait le diagnostic de l'état spirituel de la nation, élue la nation d'Israël. Et il rappelle, et c'est ce que Dieu a toujours dit, ce qu'il nous dit encore, écoutez ma voix, parce que Dieu parle. Dieu parle à travers sa parole, il nous laisse des promesses, il fixe un cadre à la vie des uns et des autres, des individus comme des nations et des peuples, particulièrement pour, eh bien là, la nation d'Israël auquel il s'adressait, mais qui vaut pour nous également. Et il dit, mais je serai votre Dieu, et parce que vous écoutez ma voix, eh bien vous serez mon peuple. Vous connaîtrez, vous saurez, quelles sont mes pensées profondes pour votre bien ? Et marchez naturellement selon ce que vous avez entendu de ma voix, c'est-à-dire mettez en pratique, obéissez. Soumettez-vous tout simplement à ce que je vous prescris et je vous garantis que vous serez heureux. Vous vivrez dans la paix. Et la paix, c'est quand même une partie importante du bonheur, hein ? Quand on peut vivre paisible, quand on peut vivre sans crainte. Vous vivrez heureux, mais vous n'avez pas écouté ma voix, vous avez fait le contraire. Vous n'avez même pas voulu prêter l'oreille à ce que je vous disais. Vous n'avez pas voulu suivre mes conseils, mais au lieu de m'écouter moi, eh bien, vous avez préféré tout simplement être attentif et obéir aux mauvais penchants de votre cœur. C'est vrai que c'est bien naturel. Un Dieu qu'on ne voit pas, c'est toujours embarrassant parce qu'on ne sait jamais où il est. Mais quand on prend conseil de soi-même et que l'on va finalement là où notre cœur nous conduit, nous incline, ben c'est beaucoup plus facile parce que on se dit, bien voilà, c'est moi qui décide, tout simplement. Écouter la voix de Dieu, c'est lui qui décide et c'est tout simplement se soumettre. Et il faut beaucoup d'humilité, mais là, c'est le contraire. Et puis, il y a cette petite phrase qui est laissée, que nous avons lue en dernier, qui est quand même tout à fait particulière, elle est assez intéressante. C'est sur celle-ci que j'aimerais m'arrêter. Au regard d'un autre texte, il est dit ceci, « Ils ont été en arrière et non en avant. » Vous avez un jour ou l'autre passé votre permis de conduire. En principe, le volant, il est devant vous. Et puis, il y a un levier de vitesse. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, parce qu'on a des voitures maintenant très sophistiquées. Et puis, il y a quand même un mouvement qui est la marche arrière. Et on a appris, à ce moment-là, me semble-t-il, si je m'en souviens encore, il faut débrayer, hein, je crois. Hein. Voilà, passe pas tout seul. Hein. Autrement, vous allez être appelé à l'ordre, hein, parce que le moteur ne lui va pas supporter. Hein. Mais toujours est-il que, voilà, on passe la marche arrière, parce que c'est quand même pratique de pouvoir faire des manœuvres, etc. etc. Mais je crois qu'on le sait dans la Bible, Dieu nous amène et nous appelle à marcher toujours devant nous. marcher devant soi. Alors peut-être qu'il y a des marches arrière parfois, ça peut arriver. Mais normalement, et c'est comme dans une automobile, hein, on va souvent de l'avant. Hein. C'est quand même mieux. Hein, si on veut aller d'un endroit à un autre, c'est quand même plus pratique. Alors Israël, lui, a fait exactement le contraire. Et Dieu va le constater, ils ont été en arrière au lieu d'en avant. Ça, c'est quand même dommage parce que c'est pas une marche normale. Et Dieu le constate. Et c'est vraiment triste parce que ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient la voix de Dieu, ils avaient l'appellation d'être le peuple de Dieu, si les choses se passaient de cette manière. Ils avaient la possibilité d'écouter, cela nous est rappelé, d'avoir des conseils, mais c'est le contraire qui s'est produit. Alors, on va aller chercher dans notre Bible un petit peu plus loin ou un petit peu avant, et on va voir que c'est bien difficile de marcher constamment en avant. Non pas que ça soit difficile, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir et pour marcher en avant, il ne faut pas avoir peur. Parce que l'avant, c'est toujours l'avenir. On pourrait dire cela. Ce sont des choses inconnues, l'avant. L'arrière, c'est plus facile de regarder et puis de dire, eh bien voilà, je suis déjà passé par là. Je connais les coins et les recoins, je sais où je peux éventuellement là faire ceci ou cela. Mais l'avant, c'est un acte de foi. Et voyez-vous, c'est l'histoire d'Israël, mais ce peut être aussi notre histoire, parce que la marche en avant avec Dieu est toujours finalement subordonnée à notre positionnement de foi. Voilà, notre positionnement de foi. On peut avoir des doutes lorsque nous marchons en avant, mais il faut que notre foi soit au-dessus de nos doutes. Maintenant, quand il est question d'aller en arrière, alors là, ce n'est plus de la foi, ce n'est plus du doute, mais c'est de l'incrédulité. Surtout quand Dieu nous dit « mais tu peux marcher, moi j'ai préparé le chemin, il ne t'arrivera rien, je te protégerai, je serai avec toi, je marcherai devant toi ». Alors, je pourrais multiplier par des dizaines et des dizaines de citations ou de promesses où Dieu nous dit « bien, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive ». Donc, quand on entend cela, c'est que lui marche devant nous et on n'a rien à craindre quand on... Alors, il y a l'histoire du peuple d'Israël. Vous allez vous en souvenir, ça se trouve tout simplement dans le livre des Nombres. Et au chapitre 13, on va lire quelques éléments de ce passage. Et il est quand même intéressant parce que il y a le choix. Hein. Je dirais qu'il y a une alternative. Soit on marche en avant ou on marche en arrière. Et on n'est pas fait pour marcher en arrière pour la bonne raison que Dieu nous a mis des yeux à notre visage, pour regarder devant soi, pas derrière. Autrement, si ça avait été prévu, et on n'a pas de rétroviseur. Alors, je tiens quand même à le signaler. Mais toujours est-il qu'on a cette parole, et vous allez vous en souvenir. Au chapitre 13, verset 1er, il nous est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque des tribus de leur père » Tous seront des principaux d'entre eux, c'est-à-dire des princes d'Israël. Moïse les envoya au désert de Paran, d'après l'ordre que l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alors on va passer sur les noms. Au verset 21, on reprend. Alors ces hommes sont partis, et ils montèrent, et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rohab, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shléchaï, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour après l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où que tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées très grandes, et nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Voilà. Retourner. Ils avaient fait quand même un long chemin qui avait duré des mois et des mois, dans des conditions qui n'étaient pas certainement des plus simples. Ils avaient traversé le désert pendant 2 ans. C'est là où ils avaient reçu les oracles de Dieu, c'est-à-dire sur la montagne de Sinaï, ce que l'on appelait communément les 10 commandements. Leur marche a été peut-être une marche à l'aveugle, mais Dieu était là, la nuit avec une colonne de feu, le jour avec une nuée qui marchait devant eux. Ils ont vécu du miracle en permanence. Ils n'ont pas eu soif, ils n'ont pas eu faim, leurs vêtements ne s'est pas usés. Il y avait le miracle, il y avait le surnaturel qui les accompagnait. Maintenant l'heure est venue pour qu'ils entrent dans le pays de Canaan, qui avait été promis depuis si longtemps, bien avant même cette triste expérience de la servitude en Égypte. Ça avait été promis à Abraham, où Dieu avait fait sa promesse à ce patriarche, à celui qu'on appelle le père de la foi, qu'il donnerait un pays où coule le lait et le miel. Et voilà que, après des siècles passés, les voilà à la frontière du pays de Canaan. Que vont-ils faire? Leur histoire est très longue. Une histoire difficile, une histoire de misère, une histoire de prière, une histoire de supplication en disant « Seigneur, délivre-nous des Égyptiens !» Et les voilà délivrés. C'est le passage de la mer Rouge. Inimaginable. C'est l'histoire de cette traversée du désert, comme je viens d'en parler il y a un instant, avec, la grâce et la faveur de Dieu à chaque instant. Et puis, ils arrivent. Ils sont juste à la limite de poser le pied là où Dieu les veut, là où Dieu veut les bénir, mais d'une manière définitive. Ils ne seront plus errants. Ils n'iront plus d'un endroit à un autre. Ils vont rentrer dans des demeures, ils vont construire des maisons, ils vont cultiver leur champ. Ils vont devenir, finalement, d'un peuple nomade, ils vont devenir un peuple sédentaire, une nation. Dieu les a enseignés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, écoute, voilà, on approche du but. Je vous ai parlé. Je vais réaliser maintenant ce que je vous ai dit. Alors, Moïse, tu vas rassembler les enfants d'Israël, tu vas prendre parmi les 12 tribus d'Israël, tu vas prendre le chef de chaque tribu, c'est-à-dire un prince, un homme qui est reconnu comme une autorité, comme un leader, comme un chef. Et parmi ces 12, tu vas les envoyer explorer le pays que je vous donne. Vous n'allez pas rentrer comme ça directement tous, mais ces hommes vont aller faire une incursion dans son pays. Ils vont aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ils vont voir. Et ils vont voir que je n'ai pas menti. Ils reviendront vous voir pour dire que c'est magnifique, c'est formidable. Il n'y a pas un pays qui ressemble à celui-ci. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, votre Dieu. Je l'ai choisi pour vous. Alors, voilà que les choses se préparent. Ils vont partir. On les a appelés les espions par rapport, naturellement, à ceux qui déjà étaient dans le pays. Et ces hommes vont pénétrer. Il nous est dit qu'ils sont allés d'un endroit à un autre, comme cela. Et puis voilà, il nous est donné les noms par où ils sont passés. Si vous regardez sur une carte, vous verrez qu'ils ont fait du chemin. Puis à un moment donné, ils ont coupé une branche de vigne avec une grappe. Et elle était tellement belle, tellement grosse, tellement importante qu'ils ont été obligés de la porter à deux. Imaginez-vous, dites donc. Ça vous fait des vendanges. Hein, 3 pieds de vigne, ça suffit pour... Voilà. Mais vous connaissez l'image. Hein, c'est l'image de l'abondance. C'est l'image d'une bénédiction qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors ils vont être là, tout simplement, à regarder la richesse de ce pays. D'ailleurs, Dieu leur avait dit, vous verrez, c'est pas seulement l'agriculture, c'est pas seulement les arbres, c'est pas seulement les fruits, mais vous verrez que dans le sol, il y a des minerais, il y a toutes sortes de choses, il y a du fer, il y a de l'airain, vous allez vraiment eh bien, vivre dans un pays qui est un pays merveilleux. Voilà, un pays extraordinaire, il est pour vous. Alors, ils ont pris des grenades, ils ont pris des figues, etc. Et ils ont naturellement, eh bien, probablement fait autre chose. Alors, ils sont revenus avec tout cela. Ils n'avaient pas seulement cette pièce à conviction qui était la grappe, hein. Ils ont dû amener autre chose. Alors, après 40 jours, qui est toujours un peu le temps de l'épreuve, hein. Vous savez, 40 jours, ça ne vous rappelle rien, hein. 40 ans pour Moïse, et puis 40 jours pour Jésus, et puis, comme ça, il y en a d'autres, hein, dans l'histoire. Alors, à leur arrivée, ils se sont présentés, là, les 12, devant tout simplement Moïse et Aaron, puis devant toute l'assemblée d'Israël. Tout le monde avait dû venir parce qu'ils se disaient, tiens, ben les voilà, ils reviennent. Donc ils ont certainement quelque chose à nous dire. Et ça se passe bien au départ. Hein. Alors, ils ont montré les fruits du pays, etc. Et il nous est simplement rapporté cette petite phrase. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Alors tout le monde l'a entendu, naturellement. Hein. Mais comme Moïse était le chef, c'est lui qui devait finalement, eh bien là, être le premier à être informé de la véracité, du constat de la véracité de la parole de Dieu, que c'était vrai, réel. Alors ils ont dit tout simplement, bien nous sommes allés dans le pays, là où nous avons vu ceci et cela. Alors au départ, ils vont attester que c'est bien ça. Ils diront, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici tout simplement les fruits. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Parce que c'est la vérité. Et vous savez, très souvent avec Dieu, nous, notre réaction, on dit, quand on est touché par quelque chose qui nous a frappé, parce que Dieu nous parle, hein, et Dieu parle encore aux hommes, et il parle toujours aux hommes, il nous parle à nous qui avons mis notre confiance en lui, mais moi je suis sûr qu'il parle aussi autour de nous, le Seigneur. Hein. Les gens viennent pas vous le dire, parce qu'ils n'en parlent pas, mais je suis sûr qu'il parle. Et souvent, dans le premier instant, dans le premier moment, on dit « mais oui, mais c'est vrai que Dieu existe ». Quand on échappe à un accident, hein. Quand il y a quelque chose que nous pourrions appeler pudiquement providentiel qui nous arrive, on se dit « mais c'est quand même pas le fait du hasard ». Alors Dieu est là, quelquefois notre conscience, elle réagit en disant « mais à la vérité, c'est bien cela, il doit y avoir quelqu'un au-dessus de moi, il doit bien y avoir quelqu'un eh bien, dans le ciel ». Mais alors, ça ne va pas très loin, puisque tout de suite après, ils vont dire à la vérité, et ça commence mal. Parce qu'après avoir dit cette phrase, ils diront « mais ». Et c'est ça le grand problème. Notre problème, nous en tant qu'hommes, c'est que parfois dans un premier mouvement, nous sommes certainement disposés à considérer que Dieu existe. Déjà, c'est un minimum. Mais tout de suite, nous amenons eh bien, ce que, vous savez, celui qui rampait dans le jardin d'Éden et qui a lancé cette petite phrase sibylline, mais est-ce que Dieu aurait réellement dit? Voilà. Est-ce que c'est bien vrai? C'est vrai, mais est-ce que c'est bien vrai? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Les gens le disent souvent. Hein. Vous savez, quand on parle de la guérison divine ou des miracles ou du surnaturel, les gens disent « mais c'est trop beau pour être vrai, votre histoire ». Eh bien justement, c'est parce que c'est vrai et parce que c'est beau. Et c'est beau parce que c'est vrai. Et nous, quelquefois, nous disons ce qu'il ne faut pas dire, mais le peuple qui habite le pays est puissant, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes et nous avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Ben oui. Vous savez, il y en a un qui s'illustrera plus tard, beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard, il s'appelle Goliath. Mais il n'était pas né à l'époque. Hein. Mais c'était une race. Oui, c'est une vieille histoire que je ne vais pas vous raconter, parce qu'elle commence dans le livre de la Genèse au chapitre 4-5. Hein. Voilà. Mais s'il n'y avait eu que des fruits, c'était bien. S'il n'y avait eu que des belles montagnes, un beau paysage, mais il y avait des gens. Et vous savez, l'homme a peur de l'homme. Hein. Même quand c'est Dieu qui lui dit « Mais ne crains pas l'homme, je suis avec toi. » Et ce n'était pas les fruits qui leur faisaient peur. Ce n'était pas l'abondance du pays, ce n'était pas le lait et le miel qui coulaient. Mais c'était parce qu'il y avait là des hommes, un peuple. Alors, ils ont dit, mais il est puissant ce pays, il y a des forteresses. Vous connaissez Jéricho, hein ? Elle va bientôt tomber là, d'ici quelque temps. Alors, il y a des forteresses, des villes fortifiées, et elles sont grandes. Et nous avons vu des géants, mais nous, qu'est-ce que nous voulons qu'on fasse devant des géants ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors, les géants de la vie, les géants de l'existence, c'est Dieu qui s'en charge, d'accord ? Parce que nous, quand on voit un géant, la première chose que nous avons, et la réaction que nous avons, c'est de dire « mais on n'y arrivera jamais ». C'est impossible ! Ça, c'est notre première réaction. Ce qui fait dire souvent à Jésus « mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu ». Alors ne regarde pas au géant, mais regarde à Dieu. Regarde au Seigneur. Le géant, il va tomber. Il va recevoir une pierre dans la tête. Vous savez David, hein, le petit bonhomme avec sa fronde, ben, il a dégringolé Goliath. Hein. Et c'est là justement de la manière dont nous regardons. Parce que Dieu nous dit « avance » et nous on dit « Seigneur, je vois et je recule ». On n'a jamais gagné des batailles en reculant, hein, c'est en avançant. Et c'est là où, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Alors, ils vont faire tout un commentaire. Autant ça a été une toute petite phrase pour dire que c'était bon, maintenant, ils vont en faire toute une histoire. Remarquez, le monde n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, d'une petite chose positive dans le monde et l'information, les médias tous azimuts, une petite chose qui peut être positive, eux, ils vont transformer les choses en négatif et ils vont envahir la planète en faisant peur à tout le monde. Ça, c'est la mentalité à l'envers. Le monde fonctionne à l'envers. Ouais. Et c'est terrible parce que on voit les résultats aujourd'hui, hein, le défaitisme, le découragement, hein, où les gens sont désabusés, les gens sont anxieux, ils sont là complètement pénétrés par l'incertitude. Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. Enfin, j'espère que pour nous, les chrétiens, on n'est pas aux prises avec ce genre de géants, parce qu'on ne va pas avancer, on ne va pas aller loin. Hein. On avance. Alors ils diront, mais les Amalécites habitent le Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer, etc., etc. Alors, à un moment donné, parmi les 12, il y en a un qui s'appelle Caleb. Et ça commençait à lui, la moutarde de lui monter au nez. Il s'est dit, mais moi j'y étais aussi. J'étais parmi les 12. Et qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Alors, il y avait Josué et Caleb parmi les autres. Il y en avait 10 contre 2. Il y en avait 10 qui étaient complètement découragés, démoralisés et qui démoralisaient tout le monde. Et il y en avait 2 qui disent « Mais non, on n'a pas vu la même chose. » C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes. Mais avec Dieu, comme dit Josué, nous ferons des exploits. Non, ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est David. Hein. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hein, ça revient au même parce que tous les deux avaient la même, ils étaient dans le même sillon. Hein. C'était la confiance et la foi. Alors, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. D'ailleurs, entre parenthèses, le pauvre Moïse, il était pour rien, lui. Hein. On a toujours besoin d'un bouc émissaire quand ça ne va pas. Il y a toujours quelqu'un qui prend. Hein. Alors, il leur a dit, mais taisez-vous, parce que nous, on y a été, vous n'y avez pas été. On vous rappelle les choses, mais elles ne sont pas aussi noires, elles ne sont pas aussi catastrophiques que vous êtes en train de vouloir bien l'entendre complaisamment, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour dire, hein. C'est pour le rappeler ce soir. Hein. Attention à ce que nous entendons, hein. Vous avez des gens qui sont des experts, qui sont des artistes pour démonter et démoraliser les autres. Non, mais il y en a qui sont bons. Hein. Je peux vous dire que vous les entendez, vous sortez votre mouchoir et puis vous mettez au lit. Hein. C'est terrible. Hein. Vous avez des gens qui sont comme ça. Hein. Alors, c'était ça ce qui se passait. Hein. Alors, il leur a dit, mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, voilà un homme qui avance. Il se dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu, enfin, c'est un, je paraphrase, mais si notre Dieu a demandé à Moïse d'aller visiter le pays pour que l'on vous dise ce qu'il y a dedans et ce qu'il est, pour qu'il soit à vous, c'est que Dieu sait très bien ce qu'il fait. C'est pas pour que vous vous démoralisiez, mais c'est que vous puissiez reprendre du courage. Et que devant la réalité, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a ceci et cela. Parce qu'être chrétien ou avoir la foi, c'est pas être, pas prendre la tactique de l'autruche en disant je me mets la tête dans ça, bon, on verra bien, hein. C'est pas ça, être chrétien, c'est être réaliste. C'est vrai que nous pouvons être confrontés avec toutes sortes de choses graves dans la vie. On peut être confronté avec des maladies graves, avec un cancer, avec toutes sortes de choses, avec la perte de notre emploi, ou avec des soucis et toutes sortes de choses qui nous touchent affectivement, familialement, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre la tête dans le sable. Dieu a toujours une solution à nos problèmes. Il en a toujours une. Mais si nous disons que tout est perdu, alors à ce moment-là, il y en a un qui se frotte les mains en disant « Ça y est, je les ai déjà vaincus sans qu'ils combattent. » C'est formidable, ils n'ont même pas commencé à prier, qu'ils sont déjà par terre. Alors, montons, emparons-nous du pays, ça s'appelle marcher en avant, et il affirme, nous serons vainqueurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire la même chose, nous, dans nos problèmes que nous pouvons avoir? Est-ce que nous sommes vainqueurs ou est-ce que nous sommes vaincus? Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit l'apôtre Paul. Alors nous sommes vainqueurs. Et encore une fois de plus, on a cette petite conjonction de coordination qui vient souvent dans les phrases et qui commence souvent une phrase « mais les hommes qui étaient allés avec lui dire « nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous ». Alors là, c'est vraiment une aide inattendue. Vous essayez de grimper déjà dans l'échelle, vous avez franchi quelques barreaux, il y en a un qui vous ramène, qui vous prend par la veste et qui vous tire en bas. En disant, oui, peut-être qu'on ne va pas y arriver. Hein. Caleb avait donné le mot qu'il fallait, parce que c'était un chef. Et nous devons être des chefs dans le domaine de la foi. Nous ne devons pas être à prendre la fuite, mais nous devons être des chefs. Nous avons des convictions ou nous n'avons pas? Est-ce que nous avons des certitudes dans notre cœur? Est-ce que nous sommes chrétiens ou nous ne le sommes pas? Alors, je ne voudrais pas vous brutaliser, hein, mais il faut affirmer quand même ce qu'il faut affirmer. C'est malheureux, mais je voulais quand même le dire, mais il y a quand même trop d'enfants de Dieu qui sont là dans les étables. Oui, connaissez le psaume, quand il nous est dit « Au lieu de reposer dans les étables, vous feriez mieux de regarder la colombe, parce que ses ailes sont parées d'or et d'argent. » Ça, c'est la richesse, et nous avons droit à la richesse. Nous sommes des riches. Je ne sais pas combien vous avez de dollars, ça ne me regarde pas. Mais c'est pas une question de, c'est pas cette monnaie-là dont je parle. La monnaie dont je vous parle, c'est celle que Dieu agrée, c'est notre confiance en lui. Et vous savez, il est dit que la foi est un riche trésor. Vous connaissez le cantique, hein? Ouais, c'est un riche trésor. Et celui qui possède la foi, eh bien, permettez-moi, il possède tout. Et il est plus riche que tout le reste, que tous les autres. Parce qu'avec la foi, eh bien, c'est le ciel. Ouais. L'argent, c'est la terre. Les amis, c'est la terre. Les possibilités physiques ou intellectuelles et de pouvoir nous en sortir, c'est la terre. Mais le chrétien, lui, il fait partie d'un royaume qui n'est pas d'ici-bas, c'est un royaume qui est en haut. Et ce royaume, il est invisible. Mais nous y touchons avec les mains et le bras de la foi. Et croyez bien qu'il y a, il recèle ce ciel de trésors divins. Mais les hommes dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Voilà. Si vous êtes sur la voie de quelque chose que vous attendez de la part de Dieu, vous aurez des gens, peut-être des chrétiens, qui viendront vous voir et qui vous diront, c'est bien, continue, nous allons prier pour toi. Nous sommes avec toi et tu vas y arriver, tu vas voir. C'est bien, hein, c'est encourageant, ça, c'est formidable. Hein. On est avec toi. Parce qu'on soutient. Puis vous en aurez d'autres qui vous diront, ah ben moi j'y suis passé où j'ai entendu dire, vous savez, il s'en est jamais sorti. Hein. Je peux vous dire que ça vous met le moral. Pzoum. Ah oui, ça vous fait. Ben oui. Excusez-moi, vous ne le répéterez pas, mais ça existe aussi dans l'Église. Quelquefois, moi ça m'est arrivé d'avoir des chrétiens qui passaient par des moments difficiles en disant, ben oui, j'ai rencontré un tel et un tel. Oh. crois que j'allais finir aux urgences. Il faut être positif. Et c'est vrai. Alors, nous ne pouvons pas monter, car il est plus fort que nous. Mais est-ce qu'il est plus fort que Dieu ? Mon ennemi, le géant, les géants qui me font face, les circonstances, les tribulations, l'affliction qui est devant moi, est-ce qu'elle est plus forte que Dieu ? Est-ce que Dieu ne serait-il pas plus fort que tout cela ? Et c'est là où nous devons donner des réponses positives, de dire « Seigneur, c'est vrai que j'entends, je vois, c'est terrible ce qui se passe, je ressens à l'intérieur de moi-même, les circonstances et les conditions de ma vie sont épouvantables, humainement parlant, je suis perdu. » Voilà. Mais Seigneur, je veux surtout pas te perdre de vue dans tout ça. Parce que je commence à rentrer dans le tunnel, il est de plus en plus sombre, je vois à peine une petite lumière, une petite lueur, mais au bout, très très loin, je ne sais pas si je l'atteindrai. Mais Seigneur, je te fais confiance. D'ailleurs, David le dit bien, hein. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vas la traverser. Vous allez la traverser. Mais vous ne craindrez aucun mal. Et vous n'allez pas faire demi-tour. Parce que quand on voit la petite lumière, la petite lueur devant, il faut la regarder jusqu'au bout. Et vous allez voir, elle est comme une tête d'épingle, ou d'aiguille si vous voulez. Et puis plus vous allez vous avancer, plus elle va s'écarter, et à un moment donné, vous allez arriver dans le plein jour. Et vous aurez passé la montagne, vous aurez passé l'épreuve. C'est pas ça ? Non, ça ne doit pas être ça. Soit vous dormez, ou alors à ce moment-là, vous êtes tellement attentionné. Non, je sais que vous ne dormez pas. Parce que là, on se fortifie dans la foi. Hein. Parce que les épreuves, on en a tous les jours. On a besoin d'entendre. Et vous l'avez déjà entendu, ce message. Hein. Plusieurs fois. Eh bien, quelquefois, il faut revenir. Parce que c'est nécessaire. Il est plus fort que nous. Ils sont plus forts que nous, ces peuples. Alors, ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent. Ouais. Ça va bientôt finir par décrier. Hein. Décrier finit par crier. Et ils vont crier après. On va le voir. On l'a lu, hein, d'ailleurs. Voilà. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Ça veut dire murmurer. Ça veut dire passer de l'un à l'autre en disant « Moïse, Aaron, Josué, Caleb, mais ils sont tombés sur la tête. Ils nous amènent. Ce sont des irresponsables. Ça ne devrait pas être des responsables du peuple. » Ah oui, mais justement, vous savez ce que nous dit le Nouveau Testament ? C'est que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, hein. Il est plus sage. Parce que Dieu nous fait passer par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils pensaient aller directement dans le pays de Canaan. Dieu leur a dit, vous n'allez pas au nord, parce que c'était au nord que se trouvait le pays de Canaan. Il leur a dit, vous allez au sud. Et quand Dieu nous fait faire des détours comme ça, comment nous réagissons ? Seigneur, mais logiquement, tu devais me faire passer ici, et tu m'envoies complètement à l'inverse. Seigneur, je te demande la bénédiction, et c'est comme s'il y avait comme... ça me tombe sur la tête et je ne comprends pas. Mais non, Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande simplement de lui faire confiance. Et il est en train de nous préparer à passer finalement eh bien, les torrents, le vent, la pluie, etc. pour en ressortir victorieux. Ça fait partie de l'école. C'est une école que on nommera l'école de la foi, lui faire confiance. Alors ils décrièrent les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Et ils ont dit à ce moment-là, mais... Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses aliments. Ouais, il y avait quand même de quoi manger, hein, parce qu'ils étaient plus de 2 millions d'habitants. Ils avaient de quoi manger, hein, les autres. Hein. Ils dévorent. Ouais, ben vous savez, c'est pas Dieu qui dévore. Hein. C'est l'ennemi qui dévore. Il dévore les âmes. Il dévore nos pensées. Il dévore nos cœurs. Il dévore nos sentiments. Et c'est lui qui nous dévore. Et nous sommes en même temps dévorés par tout cela. Quelquefois, on le dit, hein, des gens qui sont dans l'anxiété, dans l'angoisse, il est dévoré par l'angoisse. Il est dévoré par la peur. Il est dévoré par les inquiétudes. Ils reprennent les mots. Hein. Dieu rassure, c'est le contraire. Dieu nourrit. Il nourrit notre foi. Il nourrit notre confiance. Il nourrit notre paix pour que nous puissions marcher avec lui. Alors, c'est ce qu'ils ont dit, ils dévorent ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des réalités dans notre monde. Nous sommes, on est si petits. Qu'est-ce que l'on est finalement à côté des grands de ce monde qui ont la puissance, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui sont élevés en dignité, qui là, avec un geste, peuvent faire ceci et cela. Qu'est-ce que nous avons, nous les chrétiens? Nous, qui sommes des simples hommes, qu'est-ce que l'on peut faire devant ce monde qui, un monde féroce, un monde qui broie sur place, parce que c'est ça, hein, demander un petit peu les conditions là, de vie aujourd'hui. Enfin, ne nous plaignons pas trop chez nous, ça va encore. Hein. Attention, hein. Mais dans d'autres parties du monde, je peux vous dire que c'est pas vivre, c'est pas le ciel. Hein. Ça ressemblerait peut-être au purgatoire si c'est pas l'enfer carrément. Hein. Et puis même dans notre pays, parce que je suppose que par-delà même les conditions sociales, et puis peut-être l'entraide humaine qu'il peut y avoir, je peux vous dire qu'il y en a qui passent par des moments difficiles. Hein. Et ce n'est pas peut-être sur le plan matériel ou économique, c'est quelquefois sur le plan intérieur, hein, parce que tout a explosé dans leur vie autour de vous, autour d'eux. Ouais, c'était une véritable explosion. Alors ils sont malheureux, ce sont des géants, ce sont des réalités de haute taille. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors nous avons vu ces géants. Ils sont de la race des géants. Et nous étions à nos yeux. C'est-à-dire que quand on se regarde soi-même, et à leurs yeux, comme des sauterelles. Eh bien, une sauterelle, ça saute. Voilà, c'est fait pour ça, une sauterelle. Hein. Elle va se déplacer. Elle ne va pas rester là. Elle ne va pas se faire manger, la sauterelle. Parce qu'elle a des grandes jambes, et puis elle saute. Ben nous, il n'est pas question d'avoir des grandes jambes, il est question d'avoir une grande foi. Et même si on appelle une grande foi, une petite foi, comme Jésus nous dit, puisqu'il en fait la description, que si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénové, eh bien vous diriez à cette montagne, vous rendez compte, on a parlé de montagne il y a un instant, on a parlé de géant, vous diriez à cette montagne, ôte-toi et va plus loin. Eh bien cela se ferait, nous dit Jésus. La foi. On ne prêchera jamais assez la foi. Et je crois que ça, c'est ce que nous avons les uns et les autres besoin d'entendre, et le monde a besoin d'entendre la prédication de la foi. Certes, c'est une folie, mais pour ceux qui y croient, c'est véritablement eh bien, le salut, la délivrance, la guérison. Alors à nos yeux, mais là encore, c'est vraiment le problème humain qui est le nôtre, c'est que nous nous regardons peut-être un peu trop. Hein. Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je ne sais pas comment faire. Puis je ne suis rien, Seigneur. Bah, écoutez, il faut arrêter. Hein. Peut-être que c'est une réalité. On ne va pas tomber dans l'orgueil avec ça. Hein. La sous-estimation. Mais moi, je voudrais vous dire que la sous-estimation, eh bien, c'est cousin germain de l'orgueil. Quelque part. Oui, c'est le contraire. Il y a des gens qui disent, moi, je fais ceci et cela. Mais les deux sont mauvais. Il y a la surestimation, où on gonfle la poitrine, et puis la sous-estimation en disant, moi, je ne suis qu'une petite fourmi. C'est terrible, mais Dieu ne peut rien faire pour moi. Alors, il faut arrêter de se regarder. Parce qu'à force de se regarder, on va voir tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai que si nous nous regardons nous-mêmes, il y a bien des choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur, lui, nous regarde. Et quand il nous regarde, il ne nous voit pas petits. Il ne nous voit pas comme des géants. Il nous voit tel que l'on est. Et il nous fait toujours la proposition, est-ce que tu veux me donner ta main pour aller jusqu'au bout? Tu vas traverser le tunnel. Tu vas passer cette frontière, tu vas passer cette montagne et tu rentreras dans ton pays de Canaan. Ouais. Vous savez, c'est difficile. Hein. Moi, je me souviens d'une jeune fille, il y a 4-5 ans, qui est en train de chercher sa voie, et puis bon, professionnellement, sentimentalement, et voilà, je la connaissais bien. Et elle devait partir très loin, et puis elle était toujours très indécise, etc., etc. Je sais pas, j'ai eu une pensée de Dieu et je lui ai dit, écoute, tu vas aller là-bas, tu vas aller où ce que tu as rêvé d'y aller, maintenant tu ne veux plus y aller, c'est au moment où tu veux partir que tu ne veux plus y aller. Et moi je te dis, vraiment, hein, je l'ai dit avec conviction, je lui ai dit, tu verras, ce sera le pays de Canaan. Et de fait, elle est partie. Elle a réalisé beaucoup de choses, ça lui a fait du bien d'ailleurs. Elle a quitté la maison et ça c'est très bien pour les enfants, hein, qu'ils soient un petit peu et qu'ils voient autre part, hein, et qu'ils grandissent. Et effectivement, quand elle est revenue, après 4 ou 5 ans, elle nous a dit, mais j'ai fait les choses que je n'aurais jamais fait si j'étais resté en métropole ou en France. Ouais, j'ai vu les choses, j'ai pu continuer mes études, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire qu'elle bénit le Seigneur par où elle est passée. Et je lui avais dit, ça sera le pays où coule le lait et le miel. Et effectivement, il y a eu quelque chose de particulier pour elle. Il fallait que sa vie soit marquée par là. Il fallait qu'elle passe par là. Il fallait qu'elle arrête d'avoir peur. Parce que elle était comme un peu les Israélites, là. Elle voulait partir, parler. On n'entendait que ça. Puis au moment de partir, elle dit, moi, j'y vais plus. Mais les choses étaient prêtes, là-bas. Il fallait qu'elle y aille. Elle y a été. Quand elle est revenue, elle a dit, mais c'est ça. Voilà. Alors, moi, vous en tirez la conclusion que vous voulez. Mais quand il y a une parole de Dieu, ben, faut pas avoir peur. Parce que le Seigneur est avec nous. Quand il ferme les portes, c'est pas la peine, vous allez avoir des bosses. Mais autrement, quand il ouvre la porte. Et vous savez, dans toutes les expériences de la vie, je parle de cette jeune fille, mais on y est passé plusieurs fois dans notre vie, en tant que pasteur, je peux vous dire. Il a fallu tout laisser, recommencer tout, pratiquement à zéro, et à chaque fois, c'était toujours pour un cran supplémentaire. N'ayez pas peur de perdre. Parce que il y a une maxime qui dit « qui perd, gagne ». Alors n'ayez pas peur. Ah, il faut pas regarder derrière, c'est tout. En avant et pas derrière. Je finis. Nous étions comme des sauterelles. Alors toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Ils avaient décrié, maintenant ils étaient passés à la phase du cri. Vous savez ce que c'est crier, hein ? C'est vraiment, ça permet finalement de libérer par le bruit, par des soupirs, par des formes d'exclamation fortes et quelquefois violentes, eh bien, l'expression de notre peur. On crie quand on a peur. Voilà. Et le peuple pleura pendant la nuit. Il a pleuré la première nuit. Et il a pleuré pendant 40 ans toutes les autres nuits. 38 ans exactement. C'est vrai, hein, c'est ce qu'il nous est dit, hein. Vous savez, quand le Seigneur nous conduit, nous dit, rassure-toi, n'aie pas peur, fais-moi confiance, ta vie est entre mes mains, je ne te lâcherai pas. Alors, à ce moment-là, ça devrait sécher nos larmes. Parce que je voudrais quand même vous dire quelque chose. J'ai trouvé cette petite parole qui m'a véritablement, amené à vous dire ce que je vous dis ce soir. C'est que le courage n'est pas l'absence de la peur. Je répète. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Il y a des héros sur les champs de bataille qui vont sur le front, qui montent finalement à l'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur. Au contraire, ils sont comme tout le reste des hommes, ils ont la peur au ventre. Alors, je le répète, le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais être courageux, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est triompher de la peur. C'est être plus fort que la peur, malgré qu'elle soit là, quelquefois dans l'estomac et dans notre ventre. Mais la foi est plus forte que la peur. La foi bannit la crainte. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas su faire. Alors ils ont poussé des cris et ils ont pleuré. Tous les enfants d'Israël murmurèrent. Vous voyez, il y avait Josué et Caleb qui louaient l'Éternel, qui bénissaient Dieu en disant « Mais c'est formidable ce que tu nous as donné, un pays si beau, si riche. » « Magnifique Seigneur, nous te reconnaissons bien dans tes œuvres, parce que tu nous donnes toujours le meilleur, et puis voilà que tout le reste, c'est-à-dire des milliers, des centaines de milliers de personnes, murmurent. Ils étaient partis à murmurer dès le départ, ils vont murmurer jusqu'au bout. Et un chrétien qui se plaît à murmurer ou qui est tombé dans la complainte et dans les jéréméades, c'est quelqu'un, si véritablement il n'est pas repris, s'il ne se laisse pas reprendre en sous-main par le Saint-Esprit, il va vivre une vie de médiocrité et toujours à pleurnicher. Toujours à se plaindre, il ne verra jamais la grâce de Dieu, il ne verra jamais finalement le soleil de justice comme cela nous est dit dans le livre de Malachie, dans lequel, soleil de justice, dans les rayons duquel il y a la guérison. Et nous avons besoin d'être guéris de nos craintes et de nos peurs, de nos murmures, de nos lamentations et tout cela. Ça ne fortifie pas. Écoutez, on chante quand même des cantiques qui exaltent le nom du Seigneur, hein. On ne chante pas des cantiques où dit Seigneur, « Oh là là, nous souffrons, c'est terrible !» Non, non, mais on chante quand même, on essaie, les auteurs, dans l'hymnologie chrétienne, il y a des cantiques qui sont là pour redonner du moral. C'est pour ça qu'on commence souvent les réunions en chantant. Oui, parce qu'on en a besoin. Alors ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée dit, « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert ?» Ah, ils ne voient que la mort. C'est terrible, hein. Dieu voyait la vie pour le peuple. Josué et Caleb ne voyaient que la vie, eux ils ne voient que la mort. Vous vous rendez compte la différence de mentalité qu'il y a entre les deux ? Vous êtes dans l'incrédulité, pardon, ou vous êtes dans la foi. La foi, elle nous rend heureux. L'incrédulité, elle nous fait couler. Et elle nous amène à la tristesse. Il ne parle que de mort. Mes amis, je voudrais vous dire, ne parlons pas de mort au milieu de nous. C'est vrai que c'est une réalité, mais proclamons la vie, et la vie en Jésus-Christ. Parce que c'est ça ce que nous avons besoin. Parce que vous savez, les gens qui viennent à l'évangélisation, qui rentrent dans nos salles, hein, ils viennent parce que finalement ils sentent l'odeur de la mort. Et ils vivent dans un contexte souvent qui est un contexte de mort. Eh bien, s'ils voient la même chose dans l'Église, ils vont pas revenir deux fois. Hein. C'est clair, on leur fait la proposition de la vie, mais une vraie vie. Alors ça passe par le sourire, ça passe par l'accueil, ça passe par la gentillesse, ça passe par toutes sortes de serviabilités. Et un chrétien, c'est ça. Excusez-moi, je le rappelle au passage. C'est important, ça. Hein. Alors, que sommes-nous morts hein. Ben oui, mais justement, ils sont encore vivants. Mais c'est comme s'ils étaient morts, ils vont vivre une vie de médiocrité. Et ils vont dire à ce moment-là, après s'en être pris à Moïse et à Aaron, ils diront, mais pourquoi? Eh oui, les pourquoi. Quand vous êtes dans ce tourbillon négatif, hein, le premier mot qui nous vient, c'est pourquoi. Pourquoi Moïse? Pourquoi Caleb? Pourquoi Josué? Pourquoi Dieu? Ça, c'est toujours lui qui prend, hein, de toute façon. Hein. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Alors, ils ont déjà prévu le pire, hein, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. C'est terrible. Vous réagissez comme moi, là, vous dites, mais hein, c'est vrai, c'est terrible. Hein. C'est incroyable. Hein. Et pourtant, c'est la réalité de notre monde, c'est la réalité de certains tempéraments humains, peut-être malheureusement, peut-être de certains caractères chrétiens, c'est pas tout à fait ce qu'il convient. Ils voyaient déjà les choses comme se faisant, comme déjà réalisées. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et Dieu leur disait, mais c'est pour vivre que je vous donne tout cela. C'est vraiment comprendre les choses à l'envers. Hein. Ils voyaient déjà la guerre. Ils voyaient déjà le désastre. Il y a des gens qui ne voient que ça. Hein. Vous parlez avec eux, ils vont vous dire, oh, regardez le monde, demain il va y avoir la guerre. On n'aura plus d'argent, et puis ceci et cela. C'est terrible. Remarquez, il faut dire que on nous donne tout ce qu'il faut en ingrédients pour être comme ça en ce moment. Hein. Ça ne vous a rien d'écouter les infos hein. C'est dynamisant, c'est pas possible. Hein. Vous sautez de joie, c'est incroyable. Vous avez entendu, alors si vous les prenez sur France Info, tous les quarts d'heure, si vous voulez, vraiment, là, vous pouvez en prendre la dose pour la journée. Hein. Voilà, pendant 24 heures, multiplié par 4. Hein. Vous voyez ce que ça fait hein. Ça ne m'étonne pas que les gens sont défaitistes. Hein. Alors, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, alors Moïse, exit. Aaron, terminé. L'Éternel, terminé. Et puis ces deux-là qui nous ont emmenés là, et puis qui sont en train de dire que c'est bon. Hein, Josué et Caleb, terminé. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ben, finalement, ils en avaient un chef. C'était l'Éternel, mais ils ne voulaient pas l'écouter. C'est ça le problème. Parce que quand on n'écoute plus Dieu, on est livré à nous-mêmes. Et ça devient une véritable catastrophe. Alors, je termine sur la dernière pensée, la première, pardon, mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix. Jérémie, on l'a lu tout à l'heure. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et Dieu, pour son peuple, a préparé le meilleur. Je voudrais vous dire que pour chacun d'entre nous et ceux qui écouteront plus tard, eh bien moi je voudrais vous dire à tous les auditeurs que Dieu nous a réservé le meilleur. C'est pas un petit bout de bien. C'est pas une demi-portion. C'est pas quelque chose qu'il va rogner un peu sur en disant tu en as trop, hein. Faut faire attention à la gourmandise. Hein. Non, non, c'est pas ça. Dieu veut nous donner le nec plus ultra. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et vous êtes mon peuple. Et parce que vous êtes mon peuple, vous avez tout. Alors marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Et pour marcher, eh bien, il faut regarder devant et lui faire confiance. Mais ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Et dans notre mauvais cœur, il y a quelque chose qui est terrible. C'est le doute qui dégénère en incrédulité. Le doute qui n'a pas été vaincu, qui n'a pas été, dont on ne l'a pas tordu le cou, vous savez, dont on ne l'a pas mis sous nos pieds, ce doute-là. À un moment donné, il va grandir, il va grossir, et il va finir en incrédulité, où on va finir par dire « Mais Dieu n'existe pas. Dieu ne peut rien. » C'est même Dieu qui nous met dans les difficultés. C'est même lui qui nous fait plonger dans toutes ces choses qui sont terribles. Alors ils ont été en arrière, au lieu d'en avant. Il s'en est fallu de peu qu'il y ait encore un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Oh, vous pourrez lire demain matin, si vous voulez, le chapitre 14. Vous verrez. Ouais, heureusement que Moïse était un homme qui priait pour sa nation. Parce que Dieu aurait liquidé tout le monde, là. En disant, vous avez pleuré pendant des siècles et des siècles pour avoir ce que vous avez, et au moment où je vous le donne, vous ne le voulez plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On est quand même quelquefois très capricieux. Alors, ça va se passer. Ils vont quand même... Ouais, ils vont aller en arrière. Ils vont pas aller en avant. Il va falloir 38 ans, c'est-à-dire une génération, une ou deux générations qui va passer avant de reprendre la marche en avant. Mais 38 ans. Ils vont tourner pendant 38 ans dans le désert. Et moi, je crois que quelquefois, notre incrédulité, nos doutes, ce qu'il y a à l'intérieur, nos mauvais penchants à l'intérieur, notre refus de croire en Dieu, nous met dans une situation où nous tournons en rond. Il y a des hommes, il y a des femmes dont la vie, eh bien, ils tournent en rond, comme dans le désert. Oh ! Si ce sont des chrétiens, Dieu va prendre soin d'eux. Dieu va prendre soin d'eux, c'est vrai. Mais c'est quand même une différence. Avancer est une chose, reculer en est une autre, et tourner en rond, ben vous savez, c'est triste parce qu'on finit par s'ennuyer. La destination en avant, c'était un bon pays où coule le lait et le miel. À cause de cette situation, ils vont aller dans le désert. Et dans le désert, c'est pas là où il y a le plus d'activité, franchement. Il fait chaud, d'abord. Et puis, c'est pas la vie dans le désert. C'est pas la vie. Et je crois qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui préfèrent la demi-vie ou une vie médiocre que la pleine vie, que celle que Dieu nous donne. Alors, en avant ou en arrière, en tous les cas, nous choisissons et nous voulons choisir, nous savons où nous allons. Et pour marcher correctement et marcher convenablement, il faut regarder devant soi et devant nous, il y a le Seigneur qui nous dit, eh bien viens, il nous appelle et nous le suivons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et que cela fortifie notre foi. On regarde devant nous, alors donc en avant. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Merci pour ta parole. Merci pour, en effet... cette parole qui nous rappelle toujours, toujours et encore, que nous avons besoin de ta grâce, que nous avons besoin de toi. Je te prie pour chacun et chacune. Je te prie pour les jeunes gens qui sont là, Seigneur, ce soir. Et je te demande, Père éternel, de les fortifier parce que la vie est peut-être plus particulièrement devant eux. Alors, Seigneur, de se sentir aimé, de se sentir béni, de se sentir accompagné, eh bien, Seigneur, sans regarder à nous-mêmes, sans regarder aux géants qui nous environnent, sans nous laisser impressionner, eh bien, en effet, Seigneur, puisque tu marches devant nous et que tu es la lumière du monde, eh bien, Seigneur, nous savons que nous pouvons marcher rassurés et nous pouvons marcher en force vers la victoire. Et cela, nous t'en bénissons, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur. Amen.